France Culture.
Mais tout de suite, nous retrouvons le journal de la rédaction avec Camille Marigot. Rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à tous. En plein débat sur l'imposition des grandes fortunes dans le futur budget, les députés ont voté hier soir deux taxes sur les multinationales et les géants du numérique, recettes estimées plus de 20 milliards d'euros, même si le sort politique de ces deux mesures est plus qu'incertain, nous le verrons. Quatre Bulgares jugés à partir d'aujourd'hui à Paris dans l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah, en toile de fond les soupçons d'ingérence russe. À l'étranger, le retour de la guerre dans tous les esprits à Gaza, où une centaine de personnes ont été tuées la nuit dernière. Israël accuse le Hamas d'avoir rompu le cessez-le-feu. Enfin, une première depuis 6 ans, Donald Trump doit rencontrer Xi Jinping demain en Corée du Sud. Le tête-à-tête sera scruté de près après des mois de guerre commerciale. Nous évoquerons les enjeux de cette rencontre avec notre invité Benjamin Burbaumer, maître de conférence en sciences économiques à Sciences Po Bordeaux. Cinquième jour d'examen du projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée. La question de la fiscalité sur les plus hauts patrimoines est au cœur des débats avant de s'attaquer au plus tard en fin de semaine à la taxe Zuckmann. Les multinationales ont été particulièrement visées hier soir. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Camille.
Du service économie de la rédaction de France Culture. Deux votes qui hérissent le gouvernement et la droite. L'un sur les grandes entreprises de la tech, l'autre concerne un impôt universel sur les multinationales.
Oui, le moins urticant des deux concerne la taxe GAFAM, déjà en place depuis 2019. Son taux double de 3 à 6%. Elle pourrait rapporter 1,5 milliard d'euros en 2026 en cas d'adoption. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, s'y opposait par crainte de réplique américaine. Mais aucun doute sur sa faisabilité. Le Conseil constitutionnel en a d'ailleurs confirmé le principe au mois de septembre. Les débats se sont surtout échauffés autour d'un amendement déposé par la France Insoumise, instaurant une taxe sur les bénéfices des multinationales qui permettrait à Bercy de calculer lui-même les bénéfices sur lesquels une entreprise est taxable en France en se basant sur la part de son chiffre d'affaires réalisé chez nous, manière de lutter contre les jeux d'écriture des multinationales qui transfèrent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts dessus, de contrer ce que les économistes nomment le déficit fiscal, un manque à gagner pour les États, et faire respecter le taux légal de 25% d'impôts sur les sociétés en France. Le camp macroniste et le gouvernement sont vent debout, texte inapplicable selon eux, car la France a signé des conventions fiscales avec d'autres pays, des textes qui définissent déjà qui peut taxer quoi et à quel moment. Quentin Parinello est directeur des politiques publiques à l'Observatoire européen de la fiscalité et il bat en brèche cet argument juridique.
La question, c'est est-ce que on est capable de mettre en place des mécanismes anti-abus qui visent le déficit fiscal des multinationales sans renégocier les conventions fiscales? La réponse est oui, il y a un précédent. L'impôt plancher sur les multinationales, c'est exactement ça. Et ça n'a pas nécessité de la renégociation de conventions fiscales.
Cet impôt poussé par l'OCDE a été adopté par 140 pays et il impose déjà un taux minimal de 15% d'impôt aux multinationales en France depuis l'année dernière.
Valentin Grille, merci. Ces deux taxes rapporteraient plus d'une vingtaine de milliards d'euros, mais à l'heure qu'il est, Adrien Taufollet, leur sort politique est plus qu'incertain.
Oui, parce que les débats portent sur la partie recette du projet de loi des finances en ce moment et que les compromis politiques sur la fiscalité sont particulièrement difficiles, avec des partis qui font de la baisse ou l'augmentation des impôts, une question de principe. Sur la taxation des GAFAM, un chemin a donc été trouvé. L'amendement avait été déposé par Jean-René Cazeneuve, député macroniste. En commission des finances, les députés l'ont durci en faisant grimper la taxe à un taux de 15%, ce qui n'a pas manqué d'irriter le ministre de l'économie, Roland Lescure, ainsi que la droite. Hier, dans l'hémicycle, une majorité de députés s'est toutefois entendue sur 6%. Avec cette hausse d'impôts qui cible les géants de la tech, les macronistes font un pas vers les socialistes qui cherchent justement des recettes dans la taxation des grandes entreprises et des grands patrimoines. Le PS a donc voté pour. La taxe sur les bénéfices des multinationales, en revanche, est une ligne rouge franchie pour le bloc central et la droite qui se sont laissés surprendre par les votes de l'ensemble de la gauche et du RN. Avis défavorable du gouvernement, on l'a dit, critique virulente d'élus macronistes et les républicains, notamment au Sénat, où le texte sera examiné ensuite et où la droite est majoritaire. L'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet déjà de détricoter ce qu'il qualifie de folie fiscale. Mais avant même la Chambre haute, il y a fort à parier qu'avec une telle mesure irritante dans le projet de loi de finances, cette partie du budget soit devenue tout simplement invotable, avec avec de potentielles conséquences sur l'adoption finale du projet de loi de finances. Un socialiste avertit, on peut partir du principe que si la partie recette n'est pas votée dans les prochains jours, aucun autre compromis n'aboutira plus tard et le budget ne sera jamais voté.
Adrien Toffolet du service politique de France Culture. Les débats sur le projet de loi de finances reprendront en début d'après-midi. Jean Castex, officiellement nommé à la tête de la SNCF, annonce de l'entreprise, entérinée par un décret adopté en Conseil des ministres. Ce matin, l'ancien chef du gouvernement, ex-PDG de la RATP, succède pour 4 ans à Jean-Pierre Farandou, désormais ministre du Travail.
Ils sont accusés d'avoir tagué des dizaines de mains rouges sur le mémorial de la Shoah et dans les rues de Paris l'an dernier.
4 hommes de nationalité bulgare sont jugés à partir de ce début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour dégradation en raison de la religion et association de malfaiteurs. 3 seront présents, le 4e en fuite sera jugé en son absence. Des prévenus soupçonnés, Margot Steve, d'avoir agi sur ordre des services de renseignement russes.
Le 14 mai 2024, des dizaines de mains rouges peintes au pochoir sont découvertes sur l'enceinte du mémorial de la Shoah et sur plusieurs bâtiments au cœur de Paris. Le président Emmanuel Macron dénonce un odieux antisémitisme et quelques mois plus tard, 3 suspects bulgares sont interpellés. Des hommes qui assurent n'avoir été que des exécutants pensant participer à une action pour la paix, voire à une plaisanterie. Le projet était pourtant très préparé. Des réservations d'hôtels et de transports faites depuis la Bulgarie, des instructions envoyées via Telegram en langue russe et un homme chargé de filmer les faits pour les faire circuler massivement sur les réseaux sociaux. Autant d'éléments qui pointent vers la piste d'une opération de déstabilisation pilotée par les services secrets de Moscou, selon les renseignements français, avec un but, diviser l'opinion. Face aux enquêteurs, les suspects démentent toute intention antisémite. Certains disent même s'en être pris par erreur au mémorial de la Shoah.
La procureure de Paris donnera une conférence de presse cet après-midi concernant le vol spectaculaire au sein du Louvre il y a 10 jours avec un préjudice évalué à 88 millions d'euros. C'est aussi aujourd'hui que la garde à vue des 2 suspects interpellés doit prendre fin ce matin. Suivant l'avis du ministre de l'Intérieur, le nouveau préfet de police de Paris, Patrice Faure, s'est opposé à l'installation d'un commissariat au sein du musée.
Midi 37 sur France Culture. Aucune immunité pour les dirigeants du Hamas, l'avertissement du ministre israélien de la Défense.
Après une nuit de bombardements sur Gaza qui ont tué plus de 100 personnes, riposte à la mort d'un de ses soldats hier dans des frappes du Hamas, selon l'armée israélienne. De quoi raviver la peur d'une reprise de la guerre, Israël assurant avoir repris le cessez-le-feu ce matin. Un cessez-le-feu menacé qui doit être rétabli au plus vite, réagit à l'instant le gouvernement français. Et pendant ce temps-là, dans le territoire palestinien, les victimes continuent d'affluer vers les hôpitaux submergés depuis Jérusalem. Lucas Lazoa a recueilli les témoignages à Gaza.
Une nuit horrible, confie ce matin Loa Inasser, humanitaire à Deir el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza.
Au cours des 20 dernières heures, l'armée israélienne a bombardé plusieurs zones à travers l'ensemble de la bande de Gaza, au-delà de la ligne jaune. Elle a visé des maisons, des tentes. Il y a un grand nombre de victimes, plus d'une centaine selon les hôpitaux.
Un bilan qui pourrait encore s'alourdir alors que la défense civile palestinienne rencontre des difficultés à intervenir dans les décombres. Si Loa Inasser confirme que les bombardements ont cessé ce matin aux alentours de 10 heures, il dénonce des violations répétées du cessez-le-feu.
Les gens ici sont terrifiés par la situation. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est la stabilité du cessez-le-feu. Mais vous voyez que les Israéliens continuent de cibler les civils, de tuer des activistes, des familles. Nous appelons la communauté internationale à exercer une pression pour que Israël s'engage à nouveau à respecter le cessez-le-feu.
De son côté, l'armée israélienne affirme avoir éliminé une trentaine de cibles militaires après la mort de l'un de ses soldats survenu hier lors d'un incident dont le Hamas refuse de reconnaître la responsabilité.
Donald Trump annonce un accord commercial avec la Corée du Sud. Séoul et Washington vont réduire à 15% les droits de douane qu'ils s'imposent mutuellement sur l'automobile, selon un responsable sud-coréen. Le président américain achève une tournée en Asie en marge du sommet de l'APEC, réunissant 21 pays de la région. Un déplacement pendant lequel tous les regards seront tournés demain, puisque le président américain doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, une première entre les deux hommes depuis 2019. Le président américain dit s'attendre à une excellente rencontre. Pékin, qui a confirmé le rendez-vous ce matin, promet des échanges approfondis sur des sujets majeurs. De quoi faire espérer une trêve dans la guerre commerciale entre les deux puissances. Un semblant de réchauffement qui a d'ailleurs fait bondir le prix du cuivre sur les marchés aujourd'hui. On en parle ce midi avec notre invité Benjamin Burbaumer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à Sciences Po Bordeaux, auteur de Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, paru aux éditions La Découverte l'an dernier. Alors, l'escalade de ces derniers mois s'est notamment traduite par des surtaxes réciproques entre les deux puissances. D'abord, comment expliquer cette rencontre qui semble marquer une certaine accalmie entre Washington et Pékin ?
Il me semble que tout d'abord, il faut bien préciser que cette tournée en Asie est une démonstration de force de Donald Trump. Parce que de fait, il fait entériner par une série de pays asiatiques des hausses de droits de douane unilatéralement décidées par Washington. Ensuite, plus spécifiquement vis-à-vis de la Chine, il faut bien comprendre que l'arme des droits de douane arrive en quelque sorte à épuisement. Tout d'abord, les importations américaines depuis la Chine ont fortement baissé. De plus de 40%, mais en même temps, la Chine réussit à continuer à exporter vers les États-Unis, à travers des pays tiers. Donc, c'est à la fois une démonstration de force et aussi la reconnaissance que peut-être l'arme commerciale ne fonctionne plus aussi bien.
Et jeudi dernier, le Parti communiste au pouvoir en Chine a mis l'accent, et de manière plutôt forte, sur les enjeux de développement technologique lors de la présentation de son plan quinquennal, en faisant un critère plus important encore pour le développement du pays. Pourquoi la Chine investit-elle autant d'efforts dans cette bataille technologique ?
L'insistance sur les technologies peut pleinement s'expliquer par précisément un autre volet de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, à savoir la bataille technologique. Et ce qu'on voit là ces derniers temps, c'est précisément que le front commercial, eh bien lui, il se calme, mais le front technologique, lui, il est en tension de plus en plus importante. Donc souvent la guerre commerciale, très bruyante, eh bien elle éclipse les autres composantes de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et là, clairement, la bataille technologique, elle devient de plus en plus importante.
Et quelles conséquences cette bataille technologique peut avoir sur le reste du monde dans les années à venir ?
Eh bien, la bataille technologique, elle porte essentiellement sur le numérique. Et le numérique, il est important, non pas seulement en tant que secteur, mais parce que les progrès dans le numérique irriguent l'ensemble du tissu économique. Et donc, être leader mondial dans le numérique, c'est bénéficier de profits extraordinaires et de disposer d'un pouvoir politique extraterritorial. Et très clairement, les pays européens, qui sont très largement à la traîne, par exemple en la matière, eh bien, ils vont subir une dégradation de leur capacité économique de plus en plus importante à mesure que la Chine et les États-Unis foncent devant.
Alors, il y a cette bataille commerciale, cette bataille technologique qu'on vient d'évoquer, qui dure sur le long terme. Est-ce que la relation entre les États-Unis et la Chine a basculé d'une collaboration, d'une confrontation commerciale vers un conflit plus ouvert et qui va, disons, structurer le monde pour les années à venir ?
Eh bien, c'est exactement la question. C'est qui va contrôler l'économie mondiale. C'est la bataille qui, en réalité, a commencé déjà au début des années 2000, donc bien avant Donald Trump, bien avant Xi Jinping. Et donc, après une sorte de lune de miel transpacifique pendant les années 80-90 entre la Chine et les États-Unis, en réalité, des fissures assez précoces sont apparues dans cet édifice transpacifique dès les années 2000. Et depuis, on assiste à une intensification et on pourrait même dire que Donald Trump lui-même est le symptôme de cette relation conflictuelle. Sans cette rivalité accrue avec la Chine, Donald Trump n'aurait pas pu devenir président et lui-même en rajoute maintenant en intensifiant la rivalité, notamment en matière des technologies, mais il y a aussi la question monétaire, les questions des normes techniques. Donc la bataille a de multiples facettes que la bataille commerciale parfois tend à invisibiliser, mais en réalité, le conflit, il est très profond et il est très durable parce qu'il porte précisément sur la supervision de l'économie mondiale.
Dernière question, on parle notamment des brevets américains pour la Chine, l'accès aux terres rares pour les États-Unis. Qu'est-ce que vous allez vous scruter plus particulièrement lors de cette rencontre demain ?
Eh bien, c'est exactement le couple terres rares et technologie, puisque depuis un certain nombre d'années, les États-Unis pratiquent des restrictions d'exportation des technologies de pointe, qui sont importantes pour les semi-conducteurs, pour l'intelligence artificielle. Et récemment, la Chine s'est rendue compte qu'elle aussi dispose d'un atout, à savoir le contrôle des terres rares qu'elle transforme en très grande majorité. Et donc, chacun a en quelque sorte un atout, mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'apaisement. Chacun essaie de contourner l'atout de l'autre, de sorte à ce que là, on a effectivement un conflit qui s'intensifie. Donc, c'est clairement les résultats concrets qu'on va avoir demain sur ces deux questions, les terres rares et les technologies de pointe, qui va être crucial pour la suite. Mais pour l'instant, cette année s'annonce clairement comme une année d'intensification de la bataille technologique.
Merci à Benjamin Burba-Homer, maître de conférence en sciences économiques à Sciences Po Bordeaux, d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle, vous êtes l'auteur de Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Et alors que l'Ukraine, elle, attend que Donald Trump fasse pression sur le président chinois pour diminuer son aide militaire à la Russie, les États-Unis vont réduire leur présence militaire en Europe, annonce faite par la Roumanie ce matin. Plus précisément, Washington va suspendre la rotation d'une brigade présente dans le pays, mais aussi en Bulgarie, en Slovaquie ou encore en Hongrie. L'OTAN, de son côté, évoque un ajustement. Nous ne vous oublions pas les mots à la une de Las Provincias, doyen des quotidiens de Valence en Espagne. Le pays se souvient de ses victimes un an après les inondations meurtrières qui avaient fait 229 morts. Et ce soir, des funérailles d'État en l'honneur de ces victimes auront lieu à Valence, présidées par les rois d'Espagne, Felipe VI et Laetitia, en présence du Premier ministre, Pedro Sánchez. Mais qu'en sera-t-il du président de la région de Valence, Carlos Masson, très critiqué pour la gestion de ces inondations? Depuis Madrid, les explications de Marie-Hélène Ballestero.
De nombreuses familles des victimes ont exigé ces derniers jours que le président valencien, le conservateur Carlos Mazón, n'assiste pas à ses funérailles d'État. Cela fait un an qu'elle réclame sa démission en raison de sa gestion défaillante des inondations meurtrières. Malgré la pression citoyenne et les multiples manifestations à Valence, comme celle de samedi dernier, qui a rassemblé plus de 50 000 personnes, le président régional fait la sourde oreille et tente de rejeter la faute sur le gouvernement central de Pedro Sánchez ou d'autres organismes publics. Mais les familles ne sont pas dupes. Ni oubli ni pardon ont-elles scandé samedi dernier. Elles accusent les autorités régionales d'incompétence et considèrent Mazón responsable de la mort de leurs proches. Responsable notamment d'avoir envoyé tardivement le message d'alerte à la population alors que la plupart des victimes étaient déjà mortes, noyées. Un an plus tard, on ne sait toujours pas précisément ce que faisait le président valencien l'après-midi fatidique du 29 octobre 2020. Son emploi du temps fait d'ailleurs l'objet d'une enquête actuellement. Alors que les familles des victimes réclament vérité, justice et réparation, l'étau judiciaire se resserre autour de Mazón. En attendant, l'heure est au recueillement aujourd'hui. Les funérailles d'État démarrent à 18h au musée de la Cité des Sciences de Valence. Malgré le refus des familles des victimes, Mazón a annoncé hier qu'il sera présent, ce qui devrait accentuer leur colère.
Outre-Atlantique, l'ouragan Mélissa a violemment touché Cuba. Plus de 700 000 personnes ont été déplacées, menacées par des vents dépassant les 200 km/h. Des élections sous tension en Tanzanie. Des centaines de personnes manifestent dans la capitale économique Dar es Salaam pour exprimer leur opposition au régime. Un commissariat a été incendié, des coups de feu entendus. Internet est aussi perturbé dans tout le pays. Double scrutin au-delà des législatives. L'actuelle présidente Samia Suluhu Hassan brigue un deuxième mandat. Elle avait promis plus de liberté politique et médiatique, mais la réalité est tout autre aujourd'hui. Elodie Goulesque.
Dans sa petite boutique où elle vend paniers en osier et souvenirs à Dar es Salaam, cette commerçante affirme fièrement pour qui elle va voter.
Je vais voter pour Mama Samia.
Samia Suluhu Hassan, la présidente tanzanienne, est celle dont on voit le visage à peu près tous les 20 mètres dans les rues à Dar es Salaam. En mini-poster ou affiche 4 par 3, le portrait de Mama, comme l'appellent les Tanzaniens, est omniprésent. Malgré ses promesses depuis 4 ans, les violations des droits de l'homme ne cessent d'augmenter dans le pays. Les Tanzaniens ont peur de parler. Après avoir rassuré la vendeuse de paniers, préférant rester anonyme, qu'il s'agit d'une interview pour la presse étrangère, les langues se délient.
But still you would vote for Samir?
To be honest, I won't.
Pour être honnête, je ne vais pas le faire, mais j'avais peur de le dire parce que peut-être qu'ils vont me retrouver.
yeah, exactly, because maybe they'll find me.
Ces derniers mois, de nombreuses disparitions ont lieu, parfois d'opposants politiques, mais aussi de simples citoyens qui expriment leur opinion sur les réseaux sociaux. Du côté de l'opposition, Tundu Lissou, le principal opposant de la présidente Samia, est en prison. Et Lwaga Mpina, l'autre grand concurrent, a vu sa candidature invalidée. Il y a bien 16 autres candidats, mais dont les chances de gagner sont presque nulles. Malgré les apparences, la Tanzanie est loin d'être un pays multipartite, selon ce chef cuisinier qui lui aussi préfère garder l'anonymat.
Si nous avions plus d'un parti au Parlement, nous aurions des opinions différentes, mais pour l'instant, je ne vois pas ça.
Avec une présence très renforcée des forces de l'ordre, de nombreux Tanzaniens préféreront aujourd'hui rester chez eux plutôt que d'aller voter.
Un mot du temps avec un ciel très nuageux aujourd'hui, de la pluie sur la région PACA, la région Rhône-Alpes. La perturbation traverse les deux tiers nord du pays, d'ouest en est, durant la journée jusqu'en première partie de nuit. Le thermomètre affiche 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 15 à 20 sur la moitié sud et jusqu'à 23 degrés en Corse.